Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Forum de la presse de ce vendredi 24 novembre 2017. Migration, on parlera de la vente des migrants noirs en Libye. Il sera question également de la célébration des journées minières au Mali et enfin la force Barkhane qui dénonce le double jeu de certains groupes armés signataires de l'accord de paix. Avec nous sur ce plateau, Youba Konaté, Zénith Balé. Bonsoir.
Bonsoir.
Paul Ben est journaliste indépendant. Bonsoir.
Bonsoir.
Awa Semegar de Kunafoni.com. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Baraka Fofana, journaliste à Kaye. Il sera avec nous au téléphone. Je suis Aliou Sidibé. Salutations confraternelles. Bienvenue à vous tous.
Le Grand Dialogue.
La vente de migrants noirs en Libye continue de susciter de vives réactions. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lancé un appel aux États membres de l'Union africaine pour venir en aide aux migrants africains bloqués en Libye. Il a également annoncé l'envoi imminent de la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Amira El Fadil, qui sera porteuse des message aux autorités de Tripoli, mais aussi à celles qui sont dans la partie est du pays, à savoir le territoire contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, le même message sera porté à toutes les parties qui ont une existence, qui contrôlent une partie du territoire et qui sont fréquentables. Alors, Paul Mben, quel sera l'impact de l'implication de la Commission de l'Union africaine dans cette pratique en Libye et même ailleurs?
Bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de Studio Tamani. Moi, je crois que aujourd'hui, si vous voyez que tout le monde entier se meut par rapport à ce problème, c'est parce que une presse européenne, internationale, en a parlé. Sinon, le phénomène, il perdure depuis plusieurs années. Moi, je me rappelle qu'en 2015, j'étais jusqu'à la frontière libyenne en passant par le Niger. Et en son temps, on avait signalé ce problème. Il y a la société civile au Niger qui avait signalé ce problème, mais personne n'en a fait sa tasse de thé. C'est parce que CNN a envoyé une journaliste sur place qui a enquêté, qui a amené des images. C'est pourquoi le monde entier se met. Maintenant, au-delà de tout ce que cela suscite, les réactions que cela suscite, moi je crois que on doit d'abord combattre le mal à la racine, c'est-à-dire nos pays doivent repenser leur politique de formation et d'emploi des jeunes pour qu'on essaye vraiment de stopper. Rien ne sert de crier par-ci, par-là, rien ne sert de rappeler les ambassadeurs, rien ne sert d'alerter l'Union africaine, les Nations unies, rien ne sert cela tant que à l'interne, on n'a pas pris des politiques pour essayer de stopper ce flux de migration. Ça, c'est un peu
moins. En fait, ça, c'est dans le cadre quand même de la migration dans les ethnies où elle n'est pas culturelle. Chez les ethnies où la migration est culturelle.
Les migrants qui se sont retrouvés en Libye, et ils ne sont pas partis en Libye pour y rester. Ils ne sont pas partis en Libye pour aller et retourner dans leur pays. Ils veulent aller au-delà de la Libye. Ils veulent aller au-delà de la Libye. C'est une porte de sortie. Et ce n'est pas un problème de tradition. Si la migration traditionnelle, elle est d'abord africaine. C'est-à-dire Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest pour les Africains de l'Ouest. Ça, c'est la migration traditionnelle. Maintenant, les gens qui vont en Libye, c'est généralement les gens qui veulent continuer sur l'Europe. Donc moi, je crois que vous n'avez jamais entendu qu'on a vendu des migrants en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Ça se fait en Libye parce que aujourd'hui la Libye, c'est un no man's land où il n'y a pas de loi. Et ils savent très bien que ces gens ne peuvent pas avoir de soutien. Et ça va continuer. ça va continuer.
Très bien. Youba Konaté, est-ce que vous pensez que l'implication au niveau continental pourra avoir un effet sur ce phénomène?
Merci M. Sylvie de me permettre de donner mon point de vue. Oui, certainement que l'implication de la Commission de l'Union africaine va avoir un impact, ne serait-ce que politique, parce que déjà mon confrère Paul Ben l'a suscité. C'est aujourd'hui, on est un peu étonné de voir aujourd'hui l'unanimité faite et la réaction de la part des Africains. Les gens agissent comme si c'est aujourd'hui ou c'est le mois dernier que ce phénomène-là a commencé. Comme il avait signalé, il y a des années que tout le monde pratiquement est au courant, aucune autorité même au niveau de l'Union africaine ne pourra dire qu'il n'a pas entendu parler de cette histoire il y a 2-3 ans. Tout le monde est au courant. Maintenant, c'est peut-être la crédibilité, comme c'est CNN qui a fait un reportage sur ça, c'est ce qui a suscité l'engouement et obligé les uns et les autres à réagir avec une telle ampleur, sinon tout le monde est au courant de ce qui se passe dans cette zone-là. Et quand vous prenez un peu la réaction, ou du moins les commentaires faits par le secrétaire général de l'Union africaine, Fatih le Tchadien, il dit, lui-même il reconnaît qu'il n'y a pas d'interlocuteur, ou du moins l'interlocuteur qui est en Libye est très faible. Alors, à qui on va s'adresser pour, comment dirais-je, pratiquer tout ce que lui il a dit comme commentaire et comment dirais-je, les observations faites? C'est très compliqué. Et c'est-à-dire, dans cette histoire-là, l'Union européenne n'est pas aussi exempte de reproches. Parce que tout le monde sait que c'est la pression mise sur la Libye qui est aujourd'hui, c'est le résultat que nous vivons. Parce qu'il y a énormément de pression sur la Libye pour qu'elle retienne. Et les Libyens, je pense qu'eux-mêmes, ils avaient très tôt compris qu'ils avaient un rôle crucial à jouer dans cette histoire-là. Quand vous vous souvenez encore du colonel Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, en son temps, faisait carrément du chantage aux autorités européennes pour pouvoir avoir des aides, ou du moins, en tout cas, des subventions à la hauteur de l'ampleur du phénomène. Donc vous comprenez que les gens se mettent aujourd'hui, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui et ce serait une bonne chose parce que, en tout cas, le débat est lancé et personne ne pourra dire que je n'étais pas au courant. Et les gens, les uns et les autres, toutes les organisations, en tout cas, même le secrétaire général des Nations Unies, nous avons vu, a réagi et tout le monde est obligé parce que devant l'ignominie, devant l'ampleur de cette situation, personne ne peut rester en marge. Vendre des êtres humains au XXIe siècle, ce n'est pas décevant, ça va au-delà. C'est vraiment aberrant.
Ok. Et Awa Semega, au-delà de la Libye, hein, on a entendu parler quand même de traitement des migrants sous forme d'esclavage, même dans les pays arabes. Est-ce que l'implication au niveau continental va changer quelque chose dans cette pratique-là?
Non, j'estime que certainement ça va changer beaucoup de choses, même si les États ont vraiment tardé. On sait que ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien avant même l'assassinat de Kadhafi en Libye, le phénomène existait, c'était présent. Et il y avait beaucoup de migrants maliens, surtout spécifiquement pour le cas du Mali, qui souffraient de ces traites, on va dire, négrières. Je vais qualifier ça de traites négrières, d'esclavage. C'est assez inhumain. Et vous n'êtes pas sans savoir que un peu le racisme qui existe au niveau de beaucoup de pays arabes, spécifiquement le Maghreb, la Libye, l'Algérie, le Maroc. Mais on a juste entendu parler du cas de la Libye. Et c'est ce qui a alerté beaucoup de gens, certainement comme mes confrères le disaient tout à l'heure. CNN, qui est une chaîne, on va dire, internationale, mondialement connue. Donc peut-être que c'est ça qui a un peu alerté les gens. Sinon, c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Et j'espère vraiment que les États ne vont pas simplement s'arrêter aux déclarations va-t'en-guerre. Juste des déclarations, il faut vraiment des actes. Il faut poser des actes et il faut que les États agissent. Parce que sans agissement, ça ne va pas, ça va toujours perdurer.
Ok, mais pour l'actuel président français, il faut aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux de trafiquants. Alors, nous savons quand même que c'est le même État français qui a intervenu à Libye. On est en train de gérer ses conséquences maintenant.
Bien sûr, justement.
Est-ce une façon quand même de venir se racheter un peu
du... Non, ils veulent se racheter parce que c'est clair, c'est les États-Unis et la France, à l'époque Sarkozy, qui ont fait que l'intervention en Libye a eu lieu. Et avec cette intervention-là, on sait quelles conséquences il y a eu au niveau du Mali, avec l'accentuation de la crise au niveau du nord du pays et également ce phénomène de migration irrégulière qui vient envenimer le pas. Donc je pense que la France a une très grande part de responsabilité dans cette histoire. Et c'est peut-être une manière pour l'actuel président de vouloir un peu racheter les fautes, les dégâts qui ont été commis au niveau de ce pays-là. Parce que depuis la chute de Kadhafi, la Libye est devenue, on va dire, de n'importe quoi, excusez-moi du terme.
Ok. Mais Paul Ben, la France quand même décide d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'elle va retourner encore devant, comment dirais-je, l'ONU pour prendre une résolution encore et retourner avec armes en Libye?
Non.
Comment ça va se passer cette fois-ci?
Non. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, après la vente, il faut récolter les... Moi, au fait, ce que je vais vous dire, j'étais au Niger il y a à peu près un mois et demi. Par rapport à ce thème de la migration, l'Union européenne aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle ECAP Sahel, veut mettre en place toute une batterie de mesures, de structures pour essayer de stopper la migration. Ils ont leur quartier général, c'est Agadez. Ils sont prêts à injecter des centaines de milliards pour cela. Mais ce n'est pas la solution. Moi, je vous dis, ce n'est pas la solution aujourd'hui pour stopper la migration. Je l'ai dit, la solution, c'est dans les États d'où les migrants viennent. Il faut trouver des politiques d'emploi, de formation professionnelle pour stopper les jeunes. La France ne peut rien faire. La France ne peut rien faire. La France est avec l'Union européenne, elle ne peut rien faire. Les déclarations, c'est tout. Et puis, ils vont jeter de l'argent par la fenêtre. On a vu le CIGEM ici, des centaines de millions qu'ils ont jetés par la porte. Les projets n'ont pas marché. Au Niger, ils vont faire la même chose, ça ne va pas marcher.
Très bien. Alors, Baraka Fofana, nous savons que Kayes, c'est une zone quand même où la culture de la migration est beaucoup plus développée. Voilà que des migrants sont traités sous forme d'esclaves en Libye et c'est la pratique est courante même dans les pays arabes. Est-ce que vous pensez que avec l'intervention du président français et de l'Union africaine, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer cette fois-ci?
Ok, merci bien. Effectivement, je ressens le problème en même temps que nos migrants, que j'ai vu participer à une grande marche de l'ambassade de la Libye à Paris jusqu'aux Champs-Élysées et pour manifester leur mécontentement par rapport aux images qui ont été véhiculées par-ci par-là. Et franchement, les simples déclarations, à mon avis, ne suffisent pas. Il va falloir que nos dirigeants puissent prendre leurs responsabilités. Cette situation de la Libye, comme certains de mes prédécesseurs l'ont évoqué, n'est pas étrangère. Les gens le savaient, et puis il n'est pas qu'en Libye. Peut-être qu'à partir de ce qui vient de se passer, si on peut déjà imaginer comment prévenir de tel cas dans les autres pays maghrébins, parce qu'il n'y a pas qu'en Libye. Les gens galèrent en Algérie, les gens galèrent au Maroc, tout simplement parce qu'ils utilisent ces pays-là comme pays de transit pour aller en Europe. Voilà. L'Union européenne met la main à la poche pour payer les services de ces États afin qu'ils puissent empêcher les gens de passer. D'accord. Mais de là, à utiliser les êtres humains comme marchandises, comme esclaves, moi, à mon avis, c'est exagéré. Mais franchement, je me dis, ça interpelle nos dirigeants, ça interpelle aussi la société civile. Et les migrants, quand même, de l'autre côté, à travers les grandes têtières qu'ils ont, ils ont commencé à manifester, ils ont commencé à voir comment coordonner, aller au-delà de nos pays, pour voir comment on peut travailler ensemble entre migrants et originaires des différents pays africains concernés par le phénomène. Et je me dis que la société civile, au niveau local aussi, doit faire la même chose. Autant les migrants s'organisent là-bas, pour faire connaître à la France sa responsabilité dans cette affaire, autant nous devons aussi nous organiser ici, en tant que société civile, pour nous faire entendre par nos autorités. Il faut que nos autorités s'assument. J'ai l'habitude de participer à une mission en Mauritanie, où on était avec l'Association mauritanienne des droits de l'homme, l'Association malienne des expulsés, avec la CIMAD. Là, on s'est rendu compte que là-bas aussi, pour rien que pour satisfaire l'Europe, les gens prenaient nos compatriotes dans les rues, souvent sur les sentiers, et pour les balancer sur le gorille, on les fait passer pour des gens qui voulaient aller en Europe, alors qu'il y en a qui n'ont jamais tenté. Il y en a qui n'ont jamais tenté. Parce que tout simplement, si l'Europe finance ces États, ils pensent qu'ils ont une obligation des résultats. Voilà, ils essaient d'avoir des candidats, alors qu'ils sont des faux candidats pour la plupart à la migration clandestine, rien que pour gonfler le chiffre. Mais ce qui se passe en Libye dépasse tout entendement. Voilà, franchement, moi, je souhaiterais qu'on puisse se faire entendre. Je sais que les Caïdiens sont dans la dynamique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baraka.
Merci. Par la thématique migration et développement. Autant la diaspora est mobilisée. Je viens de rentrer de Paris. J'ai vu comment nos migrants sont mobilisés et pour se faire entendre par rapport à cela. Mais une fois de plus, j'ai dit il est temps que nos autorités prennent conscience du phénomène qui dépend réellement.
Monsieur Baraka, merci beaucoup. Au Mali, ici, l'organisation anti-esclavagiste TEMED dénonce la pratique de l'esclavage dans notre pays. Selon ses responsables, l'esclavage est toujours une réalité au Mali et en Afrique. Elle demande aux autorités de mettre fin à cette pratique. On va écouter M. Akado.
Par rapport à ce qui s'est passé en Libye, cela nous rappelle la traite orientale et qui s'était passé sous le silence des gouvernants de l'époque. Et voilà qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, une autre traite commence, pour nous encore c'est le même silence. D'ailleurs, ce silence, nous, ça ne nous surprend pas au niveau de Témer, parce que rares les pays africains, en tout cas l'Ouest africain, où il n'y a pas le silence sur cette pratique de l'esclavage. Particulièrement au Mali, depuis 2006, nous ne faisons que dénoncer cela. Jusqu'à ce qu'un projet de loi a été proposé, concis, présenté par le ministère de la Justice à un conseil des ministres. Et finalement, il a été mis quelque part. Donc, la pratique de l'esclavage persiste chez nous. Si on doit la dénoncer ailleurs, il faudrait qu'on la traite chez nous d'abord.
Ok. Awa Semega, vous voyez, donc le Mali était dans la dynamique quand même de pouvoir traiter le problème. Et voilà maintenant qu'il faut attendre que les gens se manifestent pour que le président de la République enfin monte au créneau. Est-ce qu'il faut croire à un effet de mode ou bien cette fois-ci leur intervention ira beaucoup plus loin?
J'espère que ça ira loin parce que on a l'habitude de voir au Mali, aussi bien que dans d'autres pays africains. Les dirigeants, généralement, la plupart du temps, ne prennent pas en fait la mesure des problèmes jusqu'à ce que ça aille à un certain niveau. Je pense qu'il faut commencer à éradiquer le mal avant même qu'il n'arrive, au lieu d'attendre que le mal soit fait et maintenant trouver des solutions. Je pense qu'il faut vraiment développer des stratégies pour pouvoir retenir nos jeunes frères et sœurs. Et je parle du cas également de l'Arabie Saoudite, où il y a beaucoup de Maliennes que j'ai eu à interviewer d'ailleurs, qui souffrent également du même problème. Elles vont en migration et tout pour pouvoir avoir de l'argent. Si elles font ça, c'est parce qu'il n'y a pas, au niveau du pays, du Mali, des structures, des stratégie vraiment axée sur les jeunes ou sur leur implantation ici. Donc, ils vont chercher ailleurs, c'est clair. Donc, je pense que j'espère que ce phénomène-là sera vraiment pris par les deux mains, par notre chef d'État, à commencer par lui et également tout le gouvernement et toutes les institutions présentes au Mali.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc dans ce studio avec nos invités, Youba Konaté du Zénith Balé, Paul Ben, journaliste indépendant, Hawa Semega de Kunafoni.com et Baraka Fofana, journaliste à Akai. 280 milliards de francs CFA, c'est la somme des recettes que l'exploitation de l'or au Mali a apporté au budget d'État en 2016. C'est une déclaration du ministre malien des mines faite à l'ouverture des 7e journée internationale minière et pétrolière du Mali. Ces journées minières et pétrolières ont lieu au moment où l'orpaillage est de plus en plus développé au Mali, alors qu'il n'existe aucune statistique officielle pour rapporter au nombre de kilogrammes produits par an. Selon certains analystes, les fruits de la croissance liée à ce secteur sont très mal distribués. Alors, faudrait-il procéder à la relecture des contrats pour un résultat plus visible, Youba Konaté?
Merci. C'est sûr que nous avons ce secteur, en tout cas ce secteur minier a besoin de beaucoup de réformes et des tentatives sont en cours. Quand vous voyez un peu la mesure qui vient d'être adoptée par le ministre des Mines, d'ailleurs que cette mesure est déjà rejetée par ceux qui font l'exploitation traditionnelle. Mais, bon, c'est une tentative de réforme parce qu'on avait quand même voulu instaurer une carte au niveau des sites d'orpaillage traditionnel pour que ceux qui sont au niveau de ces sites là puisse être identifiable. Mais pour ça, simplement aussi, n'est-ce pas, vous avez vu la réaction des organisations de ces miniers traditionnels qui protestent et qui disent non, ils ont leurs raisons. Mais effectivement, le flou qui règne au niveau de ce secteur interpelle plus d'un et beaucoup d'opacité. C'est sûr que le Mali est membre de l'ITI, n'est-ce pas, qui essaie un peu de faire la traçabilité des fonds générés par l'ensemble des mines de façon ce qui sont les mines officielles qui sont pour voir comment les ressources sont utilisées à ces niveaux. Pour ce qui est du litier, c'est sûr qu'il y a plus de clarté. Mais pour ce qui est maintenant de l'exploitation traditionnelle, il y a énormément d'efforts à faire. Et le ministère des Mines, je pense, les journées minières qui viennent de s'achever, a fait beaucoup de recommandations. Maintenant, il faut attendre de mettre en pratique ces recommandations-là pour améliorer au fur et à mesure le secteur.
Ok, d'accord. À propos de l'orpaillage traditionnel, on va écouter un de leurs représentants.
Chaque année, le gouvernement interdit l'orpaillage dans ces localités. Est-ce que vous avez pu régler ce problème avec le gouvernement?
Nous, on a été très clair avec le gouvernement. Nous, on dit que c'est notre métier, c'est notre activité principale. On ne peut pas aller à Morty et dire aux gens de ne plus presser ou de ne plus faire l'élevage. Nous, on ne va pas, même une journée, on ne va pas laisser. Ça, c'est notre métier. Quand tu veux interdire quelque chose, de métier qui le pratique plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu dis que ça prend un droit au cas. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va lui montrer quelque chose pour ça.
Et qu'est-ce que le gouvernement a dit?
Non, il a dit que d'interdire les 3, les 4 mois de l'hivernage pour aller passer pour les problèmes de déboulement de terrain. En même temps, les gens ne partent pas faire l'agriculture, et ainsi de suite. Bon, on a dit que mais si ça dit des accidents, des éboulements, là, longueur des journées, on voit les camions renversés, on voit les véhicules, les Jakarta, chier les gens partout. Ils n'ont pas arrêté les transports. Comment ils vont arrêter leur paille? On va organiser leur paille. C'est un métier, c'est un secteur. Quand on l'organise, tout le monde va bénéficier. Parce que c'est notre moteur de développement.
Ok, Baraka Fofana, on sait que Kayi revient, donc l'orpaillage traditionnel y est très développé et il y a également l'exploitation moderne de l'or à Kayi. Mais quand on constate, on voit que le développement est moins visible quand même au niveau des populations. Est-ce à dire qu'il faut réviser les contrats ou bien est-ce que les fonds de restauration ne sont pas du tout investis?
Merci. Voilà. Comme vous le dites, en tant que Kayien, quand on parle de ces activités qui se mènent dans le cadre de que ce soit l'orpaillage ou même l'exploitation régulière à travers les contrats que notre État a signé avec les partenaires, pour nous, Kayien, ces contrats ont peut-être été mal négociés. En ce sens que on n'entreprend aucun projet d'envergure pouvant faire profiter les populations locales. Et quand on prend l'exemple de Kayi-Sadula, qui ne fait que 80 km, c'est seulement cette année qu'on a parlé de projet et de bâtiment de ce tronçon-là. 80 km. Depuis combien d'années on exploite de l'or de Sadula? Depuis combien d'années on exploite de l'or de Loulo, de tous les sites qui se trouvent dans le secteur de Kayi et dans le secteur de Kenyeba? Mais quel est le profit? Il faut voir le tronçon Kayi-Kenyeba, qui fait seulement 250 km. Souvent, on y passe plus de 48 heures pour arriver à Kenyeba. Quand on est en 4x4, il faut voir le temps qu'on met là-dessus. Ce n'est pas tout le monde qui a un 4x4. Franchement, le Mali n'a pas une bonne politique dans ce domaine-là. C'est-à-dire on négocie mal le contrat 1 et tout, on n'a jamais le souci de dire à les populations de ces localités dont on est en train d'enlever toutes ces ressources méritent aussi quelque chose. Par contre, on songe juste à faire déplacer les populations en les promettant moins et merveille, mais dans les faits, là, c'est au bout du rôle, c'est la déception totale. Franchement, les contrats doivent être réduits, ça, c'est mon point de vue. Mais au niveau de l'orpaillage aussi, ce que moi je suggère, c'est de voir comment sécuriser les sites d'orpaillage. Si l'orpaillage est une réalité aujourd'hui dans la pratique, qu'on songe à sécuriser les sites, parce que souvent, il arrive que les crimes soient commis aussi sur les sites d'orpaillage, parce que ça devient des zones hors la loi, ce qui n'est pas normal.
Ok. Paul Ben, alors, vous voyez, le gouvernement empêche, ou du moins met un frein au niveau de l'orpaillage traditionnel. Les gens se refusent de céder et ils veulent que l'orpaillage traditionnel soit connu comme une profession comme telle. Et le gouvernement décide d'instaurer les cartes d'accès aux mines. Alors, finalement, est-ce que c'est l'impuissance du gouvernement à pouvoir gérer ce secteur-là? Est-ce que vous y croyez qu'on peut considérer cet orpaillage traditionnel comme une profession à part entière?
Oui, mais le représentant des orpailleurs traditionnels a prononcé un mot dans son intervention, ou bien une série de mots. Quand on organise le secteur, si on organise le secteur, tout va bien marcher. Moi, je crois que c'est le mot-clé. Ça fait des années, depuis que moi j'ai commencé à travailler comme journaliste, chaque année, comme vous dites, il y a des journées minières. Il y a des recommandations, il y a des ministres qui viennent, qui se succèdent. C'est vraiment, c'est un serpent de mer. Moi, je crois qu'il faut organiser le secteur, aussi bien le secteur traditionnel. Maintenant, les mines qu'on appelle les mines normales, c'est-à-dire qui ne sont pas traditionnelles, comme le confrère de Kaël a dit,
l'extraction moderne.
Oui. Comme le confrère de Kaël a dit, il faut qu'on revoie un peu notre copie. Moi, je ne sais pas. Vous savez, il y a trop de flou. On ne sait pas combien d'années durent les contrats avec les différentes sociétés, surtout sud-africaines. Comment est-ce que c'est fait? Parce que quand vous arrivez dans la région de Kaël, quand on vous dit qu'il y a des milliards qui... Vous avez parlé de 280 milliards.
C'est 280
milliards de francs CFA. On ne peut pas penser que tout cet argent-là... bon, ce n'est pas uniquement Kaï, mais on ne peut pas croire que l'or provient de ces régions. Hein, c'est pas bien. Il faut réorganiser le secteur, revoir, taper du poing sur la table à un certain moment, dire stop, on revoit ce qu'on a fait. Et après, quitte à casser des contrats. Nous sommes un État là.
Ok. Awa Semega, rapidement, et l'orpaillage moderne, on voit qu'ils ont quand même le devoir de pouvoir retourner quelque chose pour restaurer l'environnement. Mais cette restauration de l'environnement est moins visible, sinon très peu visible. Est-ce que vous pensez que c'est nos autorités qui gèrent mal ces fonds, ou bien est-ce que ces fonds sont réellement cédés à la restauration?
Non, il est clair que les fonds sont très mal gérés. La situation même d'orpaillage, à chaque année, on assiste à des phénomènes, des éboulements, surtout en période hivernale où on leur demande de ne pas aller sur vers les extractions, vers la minière. Là. Donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a des trucs, ça tombe sur les gens meurent. Et chaque année, c'est la même chose. Je pense vraiment que l'État, le gouvernement doit revoir, je vais te paraphraser, revoir sa copie pour voir comment est-ce qu'il faut vraiment restructurer le secteur, comment il faut l'organiser. Quand c'est bien organisé, c'est clair que tout va marcher, tout le monde va avoir son bénéfice là-dedans. Mais à chaque fois, même quand les gendarmes vont sur le terrain, parfois ils sont chassés même par ces orpailleurs-là qui sont sur le terrain, ils les chassent. Comment est-ce que c'est possible ça? Il faut vraiment, comme les Bambara le disent, la fanga et fanga dit, il faut que ce soit respecté.
Okay. Moi, je voulais tout juste ajouter une dernière chose. Hein, tout juste. Quand on avait appris la mise en place de la paperasse. Je disais le Pona, il est quoi?
Ah,
il est,
okay, oui. Oui, oui, c'est l'association des...
Non, pas la l'association, c'est-à-dire la chambre des mines.
Une chambre des mines.
Voilà. Quand on avait parlé de la mise en place de la chambre des mines, moi je pensais que voilà, maintenant on va voir un peu plus clair. Mais j'ai compris après que ceux qui aspiraient pour mettre en place la chambre des mines, c'était pour vraiment leur poche. C'est dommage.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Troisième et dernière partie avec nos invités dans ce numéro du Forum de la presse. Youba Konaté de Zenith Balé, Paul Ben, journaliste indépendant, Hawa Semega, Kunafoni.com et Baraka Fofana, journaliste depuis Kaye. Alors, Youba Konaté, rapidement, est-ce que vous voulez réagir tout à l'heure?
Non, juste dire que c'est dit qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas dissocier puisque le secteur minier est un secteur où les enjeux financiers sont énormes. C'est énormément d'argent qui sont en jeu. Et tout le monde sait la faiblesse de nos États. C'est-à-dire que nous avons des États, au moment de négocier ces contrats-là, nous ne partons pas dans de très bonnes positions. Ce qui fait que déjà à l'origine, au moment de négocier les contrats, nous partons avec beaucoup d'handicaps. Et vous n'imaginez même pas un instant ce que les sociétés, ces multinationales-là, sont capables de faire aux responsables qui vont négocier ce contrat pour pouvoir mal négocier et désavantager déjà, parce que ça se décline hein, vraiment en millions et en millions de francs qui sont prêts à mettre à la disposition des équipes qu'on envoie. Et très souvent, les gens...
Il y a quand même plus de 50 ans, là.
Ouais, non, c'est ça, justement, mais ça, c'est une réalité, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les parts qui nous reviennent sont très faibles et tous les spécialistes, même les sociétés civiles, les ONG qui interviennent dans le domaine, nous le reconnaissent et disent que nous partons avec des handicaps déjà de départ, parce que les contrats sont mal négociés et souvent c'est aussi le fait que les compétences ne sont pas
pourquoi c'est mieux au Ghana qu'au Mali pouvoir, pourquoi voilà. Est-ce que c'est mieux
ça,
au Ghana
ça c'est des réalités justement, qu'il faut
pourquoi c'est mieux au Ghana qu'au Mali
oui au-delà des parts qui nous reviennent il y a les impôts et autres taxes qui nous reviennent comme valeur ajoutée. Alors la force Barkhane dénonce le double jeu de certains groupes armés signataires de l'accord de paix. Elle évoque une collision avérée entre des groupes armés du Mali et des terroristes. La CEMA réfute les déclarations du commandant de la force Barkhane. La plateforme, elle demande des précisions sur les personnes accusées de travailler avec les groupes djihadistes. Alors, papier avec la rédaction du studio Tamani.
Des groupes armés du nord du Mali, pourtant signataires de l'accord pour la paix, ont un pied dans le processus de paix et un autre dans les groupes terroristes, a affirmé le général Christian Alaven, le représentant du commandant de la force Barkhane au Mali. Il ajoute que les différentes opérations menées au nord du Mali démontrent la collusion entre certains groupes signataires de l'accord pour la paix et les groupes terroristes. Il ne donne toutefois pas de détails officiels. Par contre, le responsable de la force française avance que nous avons aujourd'hui des preuves matérielles qui démontrent cette collusion, une certaine porosité en faisant allusion à des écoutes téléphoniques et le comportement de ces groupes armés sur le terrain. Il a également évoqué de nouvelles mesures récemment entrées en vigueur pour permettre à la MINUSMA et à Barkhane d'effectuer sur le terrain un contrôle beaucoup plus strict et précis des groupes armés signataires. Ainsi, les convois de plus de 5 véhicules ne peuvent plus circuler sans autorisation préalable des responsables des groupes signataires et en accord avec la MINUSMA. Le transport des autres armes qu'individuelles est désormais interdit. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les soldats français ont aussi annoncé la saisie d'armes, de munitions, des engins explosifs, de véhicules et procédé également à l'interpellation d'une dizaine de suspects. Cette opération s'est déroulée à Gundam, dans la région de Tombouctou, le 17 novembre dernier.
Awa Semega, est-ce qu'on peut dire que la France décide désormais de lâcher ses anciens protégés d'hier?
Je ne sais pas si la France si ce sont ses protégés ou pas, mais en tout cas, je pense que depuis la bavure qu'il y a eu avec les soldats maliens, il y a eu quelque chose qui s'est brisé et c'est clair, tout le monde c'est un secret de polichinelle. On sait que les groupes armés depuis bien avant la signature des accords ne sont pas du tout clairs parce qu'à chaque fois il y a des violations de l'accord, à chaque fois et rien n'est fait, tout le temps on dit c'est clair, tout le monde viole, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des groupes armés. Moi, je pense que vraiment il y a un manque de, il y a une mauvaise volonté quelque part qui est là.
Ok. Alors, Yuba, est-ce que la France décide enfin de lâcher, entre guillemets, ses anciens protégés?
Oui, pour moi encore, c'est fait à moitié, hein, parce que quand vous prenez un peu l'allocution du responsable militaire français, il dit les groupes armés, alors que ce n'est pas les groupes armés, c'est très clair. C'est pourquoi la plateforme, les représentants de la plateforme demandent des précisions, ils veulent que ça soit précis. C'est c'est très clair. Il faut que ça soit très précis. Maintenant, vous avez vu autour de la table, tout le monde a le sourire, parce que dire aujourd'hui que c'est le responsable de Barkhane qui fait cette déclaration, ça fait sourire les Maliens, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ont décrié ici depuis le début de la crise au nord de notre pays. Tout le monde, à tous les niveaux, tous les responsables, même les citoyens lambda, c'est que la France dans ce compartiment-là n'était pas très claire avec les Maliens. Donc, la collision avec les groupes armés ou sinon la CMA est très claire, est connue de tout le monde. Ce n'est pas vraiment c'est de notoriété publique. Tous les Maliens le savent. Ils savaient que, en tout cas, tout n'était pas dit à ce niveau-là. Aujourd'hui, que les responsables de Barkhane reconnaissent qu'il y a une collision, c'est déjà une avancée, mais il faudrait que ça soit très clair et très précis, qui donne le nom et les éléments. Parce que pour qu'un responsable français en arrive à une telle déclaration, c'est sûr qu'ils ont des éléments qu'on ne peut pas du tout nier. Donc, qu'ils les mettent en place et il faut en tirer les conséquences pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas être un pied dans l'accord, un pied dans avec les terroristes, ça ne marche pas. Et tous les dégâts que nous avons aujourd'hui, toute la confusion que nous avons dans le nord de notre pays, c'est dû à toute cette situation-là. Parce que à un moment donné, on avait pensé que ceux qui avaient la revendication politique, que si on parvenait à faire le distinguo avec ceux qui sont engagés véritablement dans le djihadisme, on allait pouvoir avancer. Mais si eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une confusion entre les deux, ça veut dire qu'on n'avance pas du tout. Donc ce distinguo-là, il faut le faire dès à présent pour pouvoir faire avancer le processus de paix.
Ok. Paul Mben, voilà que chacun se plaignait quand même, on l'affirmait que les djihadistes étaient de mèche avec ces terroristes et les groupes armés, c'était le même groupe. Alors voilà, c'est Barkhane qui intervient et qui l'affirme quand même de façon claire. Et qu'est-ce qui va changer concrètement dans la crise sécuritaire au nord du Mali?
Et moi, je suis un homme de terrain et moi, j'attends les résultats sur le terrain. Comprenez? Oui. Barkhane, venir organiser un one-man show ici à Bamako, à la Maison de la Presse, et faire des déclarations à moitié, moi, je crois que ça ne sert à rien. On les attend sur le terrain. On les attend sur le terrain que la France cesse de financer certains groupes qu'ils appellent groupes armés en collusion avec les terroristes. Ils sont à Kidal, ils sont à Gao. Je veux dire, Barkhane est à Kidal, Barkhane est à Gao. Barkhane connaît mieux que quiconque, comme c'est eux qui ont le seul mandat de la lutte contre le terrorisme au Mali. Les autres forces qui sont là, soit c'est des touristes armés, soit l'armée malienne qui essaye de se remettre sur pied. La seule force qui a pour mandat de lutter contre le terrorisme, c'est Barkhane. Donc ils savent tout. Qu'ils soient jugés sur le terrain, qu'ils cessent d'être eux-mêmes en collusion avec certains groupes.
Ok. À Barafka Fofana, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer cette fois-ci?
Moi, je ne pense pas du tout que ça puisse changer quoi que ce soit. Peut-être c'est une façon pour Barkhane de nous faire oublier la bavure qui vient d'avoir lieu, où 11 de nos soldats ont été tués. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, on peut comprendre que cela comme étant un prolongement de la politique menée par la France dans le nord du Mali depuis longtemps. Parce que c'est eux qui ont pensé faire croire aux Maliens que, en divisant les Andes en sardines, on peut continuer à considérer certains comme terroristes, comme Yad et autres. Et ceux qui sont issus d'un sardine, qui sont MIA, qui sont devenus ACIA, ces gens-là, on les fait passer pour des saints. Vous voyez un peu, ça fait longtemps qu'ils essaient d'endormir les Maliens, mais c'est pas, en tout cas, nous, on attend les actes concrets, c'est pas avec des conférences de presse comme ça ou des déclarations de ce genre qu'on va continuer, qu'on va imaginer un seul jour que la France va être de bonne foi, en tout cas dans sa politique menée au nord du Mali, jusque-là, où on voit clairement qu'ils ont pris parti pour les rebelles, qu'ils ont pris parti pour des gens qui misent et à la cohésion dans ce pays-là. Et franchement, on a besoin d'autre chose que de simples déclarations.
Ok. Mais est-ce que à quoi on peut s'attendre quant à la réaction des groupes armés accusés. Est-ce que vous pensez que ça va mettre un coup de fouet quand même au désarmement et vraiment au regroupement des combattants?
Oui, moi je ferai la part des choses entre les groupes armés. Je me dis que pour ce qui concerne la CMA, cela ne va rien changer. Parce que la CMA sait qu'elle a tout à gagner en continuant à faire des blocages. Parce que la CMA est assistée à plusieurs niveaux. Et je ne pense pas qu'une déclaration d'un officier français puisse les effrayer. Les officiers français ne répondent qu'aux politiques français. Les politiques français soutiennent la CMA. La CMA est forte de cela. Moi, à mon avis, ne va pas changer. Peut-être la plateforme, voilà, là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense qu'ici, il faut parler de l'armement, de cantonnement, tout ça. Ça ne pose pas de problème au niveau de la plateforme. C'est surtout au niveau de la CMA qui est tout là.
Mais comment ils vont réagir dans ce cas?
Oui, ils pourront réagir verbalement comme ils ont fait. Ils sont en train de faire semblant de démentir, comme quoi, voilà. Mais si on essaie de donner des précisions, comme certains l'ont demandé, je sais que les masques vont tomber. Et, mais même bien avant, les Maliens savent que c'est eux. Souhaitons qu'ils puissent gagner en sagesse et qu'ils puissent avoir pitié de ces pauvres populations civiles au nom desquels ils prétendent mener un combat. Et voilà, alors que ces populations ont besoin vraiment de vivre en paix. Et tant que la CMA ne va pas adopter notre attitude, ils vont continuer à persévérer ces pauvres populations.
Très bien. Awase Mega, à quoi on peut s'attendre quant à la réaction quand même de ces groupes armés désormais?
Bon, ce sera la même chose, hein. Toujours pareil, toujours en train de violer l'accord de paix, toujours en train de démentir des choses. Je pense que vraiment il n'y aura aucun changement à ce niveau-là.
Ça me fait sourire quoi. Quand Barkhane vient organiser une conférence de presse à Bamako pour essayer de se dédouaner, vous savez, moi je pourrais écrire un roman sur tout ce que la France a fait depuis que Serval est là. Vraiment c'est aberrant quoi. C'est vraiment aberrant. Peut-être malheureusement ou heureusement que je n'étais pas à cette conférence de presse, mais franchement c'est une bêtise ce que Barkhane fait actuellement sur le terrain. C'est les maîtres des lieux. Comprenez? Les maîtres des lieux. C'est-à-dire, vous arrivez au nord du Mali, vous n'avez pas le cutis de Barkhane, mais vous avez 1000 chances d'être sous terre. Hein.
Mais c'est Barkhane qui accuse ces groupes armés maintenant.
Mais c'est eux, c'est Barkhane qui a formé ces gens. C'est Barkhane, c'est la France qui a financé, par exemple, l'unité antiterroriste qu'on appelle les 3-3 à Kidal. Mais c'est Barkhane, c'est la France qui les a financés, qui les a équipés, qui les a entraînés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Franchement, qu'on ne prenne pas les Maliens pour des canards sauvages. Franchement.
Ok. Youba Konaté, à quoi on peut s'attendre dans ces cas, dans l'évolution quand même de la situation sécuritaire au nord du Mali?
Moi, je pense que déjà, cette déclaration en soi-même déjà est une bonne chose. Parce que déjà, si tout le monde est d'accord que c'est la France, Barkhane qui les a protégés jusque-là, il a dû se passer quelque chose pour que Barkhane dise aujourd'hui que non, ce sont des gens qui ont des défauts, qui sont en collision avec les groupes terroristes. Donc déjà, ça c'est un grand changement parce que si ceux qui les protègent ou du moins ceux qui les ont protégés jusque-là revendiquent aujourd'hui cette situation et disent que non, c'est eux qui troublent la situation, c'est une bonne chose parce que au moins officiellement la France reconnaît qu'il y a une collision entre les groupes armés et les terroristes. Pour moi c'est une avancée qu'il faut saisir. Maintenant pour ce qui est de la réaction de ces groupes armés là, c'est sûr qu'ils vont continuer à nier, ils vont jamais reconnaître qu'il y a une collision, mais la porosité entre les deux, tout le monde, parce que dès le moment quand la force Barkhane était arrivée à Kidal et qu'on avait donné même le temps et à ceux qui veulent continuer dans la lutte terroriste de se départir de ça ou de choisir le camp de ceux qui ont la revendication politique, puisque en son temps on a même donné le temps aux forces qui étaient sur le terrain de pouvoir faire le choix, aller dans les camps de ceux qui ont la revendication politique ou alors demeurer terroristes. Donc ouais, dès lors, alors cette porosité là,
le papa accuse ses fils maintenant d'être des bandits. Ça, voilà. Je crois que le papa il doit lui-même connaître le fouet qu'il doit choisir pour les corriger.
Très bien. Donc je vous rappelle que c'était le forum de la presse de ce jour 24 novembre avec nos invités Youba Konaté du Zénith Balai, Paul Ben, journaliste indépendant, Awa Semega de Kunafoni.com et Baraka Fofana, journaliste à à Kaï. Alors, nous sommes au terme donc de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou et mis en onde par Sedoumbo. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara et Aliou Sidibé à la présentation.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halou Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.